Radio Okapi.
Oh, Okapi.
Le journal Jacques-Yves Moulima.
Un dialogue consultatif entre les présidents de la République démocratique du Congo et les représentants des groupes armés locaux doit avoir lieu dans les meilleurs délais. C'est ce processus politique qui est lancé sous la direction du président Uhuru Kenyatta du Kenya. Ceci ressort du sommet de Nairobi qui s'est clôturé hier. Le Premier ministre Jean-Michel Samalou Kondé est arrivé hier dans la soirée à Lubumbashi. Son agenda prévoit des rencontres avec les différentes communautés vivant dans la province pour promouvoir le vouloir vivre ensemble et la paix. Enfin, notre invité dans cette édition du journal, c'est Julien Paluku, ministre de l'Industrie. Depuis Lubumbashi où il séjourne, il demande aux investisseurs d'appuyer le projet de la fabrication des batteries électriques. Voilà tout pour le sommet. Bonjour mesdames, bonjour mesdemoiselles, bonjour messieurs et bienvenue dans cette édition du journal. Le sommet des chefs d'État à Nairobi a convenu qu'un processus politique soit lancé sous la direction du président Uhuru Kenyatta du Kenya pour faciliter les consultations à entreprendre entre la RDC et les groupes armés locaux. C'est ce qu'on peut lire dans le communiqué final du sommet publié hier jeudi. Celui-ci a rappelé qu'un dialogue consultatif entre les présidents de la RDC et les représentants des groupes armés locaux en RDC doit avoir lieu dans les meilleurs délais. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Selon le communiqué final, le sommet de Nairobi a décidé de la mise en place de la force régionale de lutte contre les forces négatives qui doit être opérationnelle immédiatement sous la direction de la RDC. Tous les groupes armés en RDC sont appelés à participer inconditionnellement au processus politique de règlement de leurs doléances. Félix Tshisekedi a été invité à convoquer une réunion consultative le 22 avril. Les dirigeants présents à Nairobi se sont convenus du lancement d'un processus politique censé faciliter les consultations à entreprendre entre la RDC et les groupes armés locaux qui écument l'est du pays. Ce processus sera particulièrement suivi par Uhuru Kenyatta, président du Kenya, indique le communiqué final. Sachez que ce sommet tenu ce jeudi à Nairobi a réuni les chefs d'État et des gouvernements du Kenya, de l'Ouganda, du Rwanda, de la RDC et du Burundi.
7 personnes tuées, une dizaine d'autres prises en otage, des maisons incendiées. C'est le bilan de l'incursion mercredi des présumés ADF sur la colline Mukasila. C'est à 20 km de Commanda Central Ituri. Des sources sécuritaires dans la zone rapportent que ces rebelles, chassés du mont Oyo par les FRDC, appuyés par les forces spéciales de la MONUSCO, y ont érigé leur base. Cette situation a occasionné un déplacement massif des populations vers le centre commercial de Commanda. Ezekiel Mouzalia.
C'est très tôt le matin que la colline de Mukasila dans le groupement Bavonkutu a été envahie par les ADF qui tiraient des coups de balles dans toutes les directions. Ces malfrats venaient de traverser la rivière Ituri depuis lundi dernier, chassés de leur bastion du mont Oyo. Selon des sources locales, ces rebelles ont abattu 2 personnes, dont un policier à qui ils ont ravi l'arme et enlevé la tenue, indiquent des sources de sécurité. Et comme si cela ne suffisait pas, ces rebelles se sont dirigés vers le village Kangubu, 5 km plus loin, et où ils ont tué 5 civils et incendié plusieurs maisons et 5 motos, ce qui a créé une psychose parmi la population des localités Bandibalechu, Bandiboli, Bavonkutu ainsi que Mukasali. Des sources concordantes précisent qu'une dizaine de villageois ont également été pris en otage. Plus de 1000 ménages ont déjà fui leur localité vers Commanda. L'armée rassure que les opérations sont en cours pour mettre fin aux agissements de ces inciviques. Bunia, Ezekiel Mouzalia, Radio Okapi.
Et puis en plus bref, toujours à Bunia, le premier président de la Haute Cour militaire, le général Mutombo Katalay et l'auditeur général près la Haute Cour militaire, le général Likulia Lokumu Lucien René, sont arrivés ce jeudi à Bunia, chef-lieu de la province de l'Ituri. L'objectif de leur mission est d'évaluer les actions judiciaires en cette période de l'état de siège 11 mois après son instauration et de donner des instructions pour une bonne administration de la justice. La délégation a rencontré ce même jeudi le gouverneur de province et les membres du comité provincial de sécurité. Pendant leur séjour, ces hauts magistrats militaires auront des séances de travail avec les membres de la société civile et les collectifs des associations féminines. Et puis, situation sécuritaire préoccupante à Beni, près de 50 personnes tuées depuis le début de ce mois par des présumés ADF. Le député national Jean-Baptiste Mouindo Kasueka plaide pour le renforcement des mesures de sécurité dans cette partie du pays. En séjour d'investigation à Lomé, dans le Grand Nord, l'élu du Nord Kivu dénonce une confusion qui prévaut entre la population et les FARDC sur la vraie identité des tueurs. La population parle des ADF, alors que le commandement militaire fait allusion aux coupeurs des arbres. Il exige donc des enquêtes de la haute hiérarchie des FARDC et la permutation des unités dans cette partie du pays. Jean-Baptiste Mouindo est au micro de Michel Kifindangoy.
Hier, au village Miende, à une trentaine de kilomètres de Kasindi, 4 grands véhicules ont été incendiés avec des marchandises à bord, près d'une position des FARDC à 50 mètres. Aucun d'entre eux n'a été arrêté. Cet incendie vient couronner toute une série de tueries qui ont commencé depuis le 4 avril à Masambo. 11 personnes ont été tuées ce jour-là, dont un capitaine vaillant des FARDC dans plusieurs localités. Le rapport de la jeunesse du groupement Basongora fait état de 48 corps déjà enterrés. Plus d'une trentaine restent portés disparus. La population dénonce des comportements de complicité dans le chef de certains éléments et FARDC de certains commandants. La population exige la relève des unités qui ont fait longtemps.
Le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est arrivé ce jeudi dans la soirée à Lubumbashi, dans le Haut-Katanga. Il est accompagné de plusieurs membres de son gouvernement. Pendant son séjour, il va réunir les différentes communautés vivant dans la province pour promouvoir le vouloir vivre ensemble et la paix. D'autres questions sont également prévues, c'est notamment celles relatives à la santé et à la sécurité. Jean Gandou.
Accueilli par plusieurs membres des partis politiques de l'Union Sacrée, le Premier ministre Jean-Michel Samalukonde est arrivé à la Grand Place de la Poste au centre-ville de Lubumbashi peu avant 19h où l'attendait une foule immense. S'adressant à l'assistance pendant quelques minutes en swahili langue locale, il a indiqué qu'il est à Lubumbashi à la suite des informations parvenues au chef de l'État faisant état des tensions intercommunautaires dans la ville de Lubumbashi, mettant ainsi à mal le vouloir vivre ensemble et la paix qui sont gages de tout développement. Il a promis notamment de rencontrer les associations socioculturelles, les notabilités et autres pour parler de cette question. Il n'a cependant pas donné la date du coup d'envoi de cette table ronde dont tout le monde parle. Il a par ailleurs annoncé l'arrivée imminente du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, dans la capitale du Cuivre, sans pour autant en déterminer le jour. Soulignant que bien avant l'arrivée du Premier ministre à Lubumbashi, le gouverneur du Haut-Katanga avait organisé des rencontres avec les représentants des différentes communautés vivant dans la province dans les buts de favoriser la paix et la cohabitation pacifique. Ceci fait suite à la montée des discours des haines et des divisions tribales distillées dans les réseaux sociaux par certaines personnes. Lubumbashi, Jean Gandou, Radio Kapi.
Restant à Lubumbashi, le ministre de l'Industrie demande aux investisseurs d'appuyer les projets de la fabrication de batteries électriques. Il a dit ce jeudi au cours d'une rencontre avec des investisseurs des différents domaines, dont les banquiers. Pour Julien Paluku, la RDC possède toutes les matières premières nécessaires à la fabrication de ce type de batteries, d'où l'importance pour le pays de commencer à transformer elles-mêmes ces minerais pour leur donner une valeur ajoutée. Julien Paluku l'a dit à Jean Gandou.
Nous nous retrouvons à Lubumbashi ici pour mobiliser trois types d'acteurs. Le premier acteur, c'est le gouvernement lui-même qui doit comprendre qu'il doit investir dans les projets de batteries électriques. Le deuxième acteur, c'est le secteur bancaire. Parce que les actifs en banque se chiffrent aujourd'hui à 14 milliards de dollars contre 10 milliards il y a une année. Cela démontre que nous avons des actifs qui peuvent nous permettre de financer le développement de la République. Le troisième acteur, ce sont les acteurs institutionnels comme la SONAS, la CNSS, les FPI, les FONER. Ils ont des moyens et donc dans la stratégie du montage du véhicule financier qui va aider au financement secteur des batteries électriques, nous voulons mobiliser également ces secteurs institutionnels au lieu de thésauriser leur argent dans des banques qu'ils utilisent cet argent pour financer ces grands projets pour que dans les 5-10 prochaines années, en retour, ils puissent avoir des dividendes qui permettent de gagner en termes d'investissement sur ce qu'ils détiennent comme épargne. Voilà l'ingénierie financière que le gouvernement est venu monter ici à Lubumbashi pour rassurer le peuple congolais que le président de la République est déterminé à ne plus accepter que nos produits soient exportés à leur état brut parce que nous ne gagnons rien depuis 60 ans.
Notons que le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, est l'invité dans cette édition du journal. Et puis, cri de détresse de la population de Bagata dans la province du Kwilu. Le seul pont qui relie ces territoires au reste du pays a été coupé. Le député national Gary Sakata fait état d'une paralysie totale des activités économiques dans cette partie du pays, avec plusieurs dizaines de véhicules qui traînent de part et d'autre de la route. Pour l'élu de Bagata, la réhabilitation urgente de ces ponts et l'ouverture des routes secondaires s'avère urgente et vitale pour la population de cette partie du pays. Gary Sakata est au micro de Michel Kifindangoy.
Au niveau d'un village qu'on appelle Bemou, qui est situé à 12 km de la ville de Bandundu dans le centre du nord, le principal pont qui sert de ralliement aussi bien pour se rendre dans la ville de Bandundu dans le centre du nord ou pour aller vers la ville de Kinshasa dans le centre de l'ouest a été totalement endommagé et plus aucun véhicule ne peut y passer, même pas des motos, même pas des vélos. Cette situation est assez grave parce qu'au moment où je vous parle, plusieurs véhicules traînent dans l'un ou l'autre sens alors que ces secteurs sont des greniers agricoles qui servent la ville de Kinshasa ainsi que la ville de Bandundu. J'ai pris de contact avec la haute direction de l'office de route ainsi que la direction provinciale qui ont promis qu'une solution urgente va être trouvée et nous comptons bel et bien sur l'office de route pour faire effectivement leur travail. C'est par là que je voudrais également lancer un appel au gouvernement de la République qui est quand même de route parallèle. Si nous avions une route parallèle, on pourrait se servir de cette route, fût-ce de manière provisoire.
Dans la province du Maniema, il y a aussi rupture des trafics entre les provinces du Maniema et Lomami sur la route nationale numéro 2, reliant Bujimai, Seteri, Samba et Bukavu à la suite de l'effondrement du pont Namuloé depuis le 17 mars dernier. Conséquence, plus de 15 véhicules poids lourds des commerçants à destination de Bukavu sont bloqués de l'autre côté de la rivière. La société civile de Bassongé 1 appelle à l'intervention du gouvernement. Son président, Abedi Kazimoto Dallas, fait savoir qu'à part l'effondrement du pont, la route Samba Basseteri dans la province de la Lomami est dans un état de délabrement très avancé. On l'écoute au micro de Florence Kizalonga.
La situation est devenue de plus en plus critique depuis le 17 mars sur la rivière Namuloé où le pont construit depuis 1939 s'était effondré suite à une pluie qui s'était abattue. Actuellement, plus de 15 gros véhicules transportant les arachides et d'autres marchandises des commerçants de Lubao, Samba, Kasongo et Bukavu sont stationnés de l'autre côté de la rivière. Et les véhicules en provenance de Bukavu, Tagne à Samba, ce sont les commerçants de Saint-Héry qui cherchent des motocyclistes pour le transport de leurs marchandises et c'est dernier obligé de décharger sur les mêmes lieux. Cette rupture de trafic entraîne des conséquences néfastes étant donné que cette route est d'intérêt national. Elle relie quatre provinces, Kasai Oriental, Maniema, Lomami et Sud Kivu. À part l'état du pont Namuloé, pratiquer la route Samba Lubao Saint-Héry dans la province de Lomami, c'est vraiment disposer la chèvre à la chasse. C'est ainsi que nous interpellons l'implication du gouvernement central à trouver solution plus vite que possible sur la rivière Namuloé et pour faciliter la reprise des activités commerciales.
Le marché des assurances en RDC est resté le monopole de la seule société nationale d'assurance SONAS pendant plusieurs décennies. C'est à travers la loi numéro 15005 du 15 mars 2015 portant code des assurances promulguée par le chef de l'État et publiée au journal officiel en avril de la même année que le marché des assurances est réformé et libéralisé, Daniel Tamizoni.
L'exposé des motifs de ce code dit clairement que l'assurance constitue une des activités essentielles au développement économique et social des pays modernes. Elle contribue d'une part à la sécurité des familles et à la pérennité des entreprises en compensant les conséquences des accidents qui menacent leur patrimoine ou la sécurité de leurs revenus. Et d'autre part, elle suscite une épargne collective qui, étant investie au service de l'économie nationale, contribue fortement au développement de cette dernière. À travers le code des assurances, l'État congolais a libéralisé le marché des assurances et a ainsi mis fin au monopole dont a joui la Société nationale d'assurance SONAS. La loi a également prévu la création d'une autorité de régulation pour permettre à l'État d'assumer ses responsabilités de régulation et de contrôle du marché ainsi que la discipline des opérateurs dans l'intérêt des assurés grâce à la sécurité financière offerte par les entreprises d'assurance. C'est ainsi que sera créée l'autorité de régulation et de contrôle des assurances ARCA dont la mission est entre autres de veiller à la protection des droits des assurés et des bénéficiaires des contrats d'assurance, à la solidité de l'assise financière des entreprises d'assurance et des réassurances ainsi qu'à leur capacité à honorer leurs engagements.
Actualité internationale.
L'affaire des biens mal acquis revient sur le devant de l'actualité au Gabon. Quatre enfants du président défunt Omar Bongo ont été mis en examen par la justice française. Ils sont accusés de recel de détournement de fonds publics, corruption active et passive et abus des biens sociaux à la suite de l'acquisition d'un important parc immobilier en France durant les dernières décennies. Et puis, de nouveaux heurts entre policiers israéliens et manifestants palestiniens ont éclaté tôt ce vendredi matin sur l'esplanade des mosquées de Jérusalem, troisième lieu saint de l'islam, mais aussi site le plus sacré du judaïsme sous son nom de Mont du Temple. Les forces de police israéliennes sont entrées sur l'esplanade et des jeunes palestiniens ont lancé des pierres dans leur direction. Il y aurait quelques blessés.
L'invité.
Le ministre de l'Industrie plaide pour l'implication des investisseurs congolais dans le projet de la production de batteries électriques. Pour Julien Paloukou, depuis 60 ans, l'exportation des minerais à l'état brut n'a rien apporté au pays. Il est donc temps que ces minerais soient transformés localement pour leur donner une valeur ajoutée. Julien Paloukou s'entretient ici avec Jean Ngando. Suivez.
Monsieur le ministre, bonjour.
Bonjour.
Mais pourquoi associer les investisseurs à ce projet de la fabrication de batteries?
Comme le président de la République l'a si bien indiqué dans ses différents discours et l'instruction qu'il nous a donnée, transmise par le premier ministre, c'est que le secteur des batteries va mobiliser suffisamment de moyens financiers en termes de milliards de dollars. J'ai allé dire lorsque je parlais de ce projet il y a quelques mois que c'est un projet qui se chiffre autour de 8 à 10 000 milliards de dollars d'ici 2030-2040. Et donc pour le président, il ne faudrait pas que seuls les étrangers viennent investir dans ce projet et commencer à gagner des dividendes seuls. Voilà pourquoi nous nous retrouvons à Lubumbashi ici pour mobiliser trois types d'acteurs. Le premier acteur, c'est le gouvernement lui-même qui doit comprendre qu'il doit investir dans les projets de batteries électriques. Le deuxième acteur, c'est le secteur bancaire. Parce que lorsque nous avons suivi la présentation d'un délégué des banquiers, eh bien, les actifs en banque se chiffrent aujourd'hui à 14 milliards de dollars contre 10 milliards il y a une année. Ce qui est une progression des actifs bancaires de 40% en une année. Et donc cela démontre que nous avons des actifs qui peuvent nous permettre de financer le développement de la République. Le troisième acteur, ce sont les acteurs institutionnels. Vous voyez les institutions comme la SONAS, comme la CNSS, comme les FPI, comme les FONER. Ils ont des moyens qui naturellement sont thésaurisés. Et donc dans la stratégie de démontage du véhicule financier qui va aider au financement du secteur des batteries électriques, nous voulons mobiliser également ces secteurs institutionnels qui sont la SONAS, les FONER, les FPI, la CNSS, au lieu de thésauriser leur argent dans des banques, qu'ils utilisent cet argent pour financer ces grands projets, pour que dans les 5-10 prochaines années, en retour, ils puissent avoir des dividendes qui permettent de gagner en termes d'investissement sur ce qu'ils détiennent comme épargne. Donc voilà l'ingénierie financière que le gouvernement est venu monter ici à Lubumbashi pour rassurer le peuple congolais que le président de la République est déterminé à transformer les ressources naturelles, à ne plus accepter que nos produits soit exporté à leur état brut parce que nous ne gagnons rien depuis 60 ans. Voilà la raison de ces montages financiers que nous faisons à Lubumbashi en mettant en place les idées autour du véhicule financier qui doit financer le secteur des batteries électriques.
À court terme, les différents investisseurs, qu'est-ce qu'ils vont gagner?
Quand on planifie le développement, on le fait à court, moyen et long terme. À court terme, c'est d'abord de permettre que ces véhicules financiers puissent exister à l'instar du barrage La Renaissance en Éthiopie. Lorsqu'on était en train de monter ce barrage de Renaissance, les gens n'y croyaient pas. Mais quand ça prend forme aujourd'hui, les gens comprennent que pour planifier le développement, il faut commencer à prendre des risques. Donc à court terme, c'est que tout le secteur financier doit se mobiliser pour rentabiliser les ressources et nous permettre que d'ici 5-10 ans, chacun tire des dividendes et que les dividendes qui seront issus de l'investissement d'aujourd'hui soient réinvestis dans d'autres secteurs et ainsi continuer à créer des millionnaires congolais.
Enfin, vous avez besoin de combien d'argent pour commencer?
L'étude de Bloomberg, qui a été présentée en novembre 2021, a démontré que pour monter une usine de traitement des minerais en vue de la fabrication des précurseurs de batteries électriques, cette étude a démontré qu'il nous faut 39 millions de dollars quand on est en RDC, 117 millions de dollars quand on est aux États-Unis, 112 millions de dollars quand on est en Pologne, en Europe, et 65 millions de dollars, disons 112 quand on est en Chine, et 65 quand on est en Europe, en Pologne. Et donc la RDC a été prise comme un pays compétitif en matière de fabrication de batteries électriques. Mais lorsque nous voulons monter une usine de grande échelle de traitement de 100 000 tonnes, il nous faut 300 millions de dollars. Donc, Si nous voulons monter une usine de traitement de 5 000 tonnes en RDC, il nous faut 300 millions de dollars et nous avons le secteur bancaire dont je viens de parler tout à l'heure qui ont des actifs qui se chiffrent à 14 milliards de dollars et que donc même au niveau interne, on peut mobiliser l'épargne locale et la réinvestir dans le secteur des batteries électriques et ne pas avoir suffisamment de problèmes. Mais comme nous avons besoin aussi de l'expertise extérieure, nous avons besoin des investisseurs internationaux qui viennent s'associer à ceux de la RDC pour qu'ensemble nous puissions cheminer vers l'émergence du pays tel que le chef de l'État l'a toujours voulu.
Monsieur le ministre, ça commence quand?
Ça commence ici et maintenant.
Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis.